Vous écoutez Radio Campus Lille 106,6 FM en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois, et sur le site web campuslille.com. Actuellement se tiennent des rencontres européennes Erasmus+ dans les filières santé. Eh bien, l'occasion de parler de ce thème que peut apporter Erasmus+ à la formation en santé, c'est avec notre invitée Mathilde Bégrand, qui est responsable du département enseignement supérieur, département promotion de l'agence Erasmus+, que nous allons traiter ce sujet. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Alors, heureux de vous accueillir. Vous avez fait le déplacement au moins de Lille jusqu'ici, mais vous venez, j'imagine, de bien ailleurs, comme vos invités.
Oui, l'agence Erasmus+ France, qui s'occupe de promouvoir le programme Erasmus et de le mettre en place pour la France, est à Bordeaux. Donc, j'arrive de Bordeaux. Mm-hmm. Mais on est réunis à Lille pendant 4 jours avec tous les participants de cette rencontre européenne pour parler, développer, créer plus de coopération pour permettre aux étudiants des filières médicales et paramédicales de faire des mobilités Erasmus.
Alors, c'est vrai qu'on peut dire que depuis 20-30 ans, Erasmus, c'est un projet qui a évolué. Erasmus+, ça ouvre les possibilités à d'autres personnes que les étudiants, j'allais dire, traditionnels.
Oui, tout à fait. Alors, donc, le programme Erasmus a été lancé en 1987. Et depuis 1987, c'est plus de 14 millions de jeunes, de moins jeunes, qui ont profité du programme. Et donc, vous avez raison, on connaît la mobilité des étudiants. Mais c'est beaucoup plus large que ça. En fait, ce sont tous les apprenants. Et dans apprenants, eh bien, ça peut être les jeunes de lycée, les jeunes de collège. Ça peut être également, bien entendu, les étudiants. Mais c'est toute personne qui est en mesure de faire un apprentissage. Donc, ça se concerne aussi, par exemple, quand vous êtes à Pôle emploi et que vous faites des formations en Pôle emploi, vous pouvez faire une mobilité Erasmus. C'est également les jeunes qui sont peut-être dans des cursus d'inclusion avec des associations du type éducation populaire ou de réinsertion. Ça peut aussi faire des mobilités Erasmus. En gros, Erasmus, c'est de 7 à 77 ans, voire même plus.
Voilà, alors on va parler aujourd'hui d'un domaine un peu particulier qui est la formation en santé. C'est un peu le thème de votre, je peux dire, de ces rencontres européennes actuellement.
Oui, absolument. On a voulu faire un focus sur les filières médicales et paramédicales. Donc en fait, si je veux donner des exemples, c'est les médecins, mais c'est aussi les auxiliaires de vie, les auxiliaires de périculture, les infirmières, les kinés, les dentistes et plein d'autres que j'oublie, d'étudiants qui sont dans ces filières-là. C'est des filières où c'est peut-être moins naturel de se dire que faire une mobilité en Europe ou à l'international, c'est important pour sa formation. Et on a décidé de faire un focus sur le sujet.
Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes que j'ai accueillies dans cette émission qui ont eu une expérience à l'étranger n'en reviennent pas comme ils en sont partis. C'est pour eux toujours un moment important et intéressant.
Oui, c'est un moment important dans sa formation. C'est un moment qui apporte sur le plan personnel. Je pense que c'est ça qu'ils vous disent aussi quand ils reviennent. J'ai appris à me connaître. Je ne savais pas de quoi j'étais capable avant de partir. Ou en tout cas, je ne me doutais pas d'être capable d'autant de choses. Mais c'est aussi des apports sur le plan académique, professionnel. Si on revient sur l'exemple des filières médicales, paramédicales, c'est par exemple faire des stages dans un hôpital ou dans des soins infirmiers dans un autre pays. Donc on apprend de nouvelles pratiques, on apprend de nouvelles techniques, on apprend une manière d'appréhender le patient, d'appréhender une culture de manière différente, qu'on va ramener avec soi et puis qu'on va pouvoir appliquer quand on travaillera plus tard.
Donc dans ces rencontres actuellement à Lille, est-ce qu'il y a déjà des choses qui se dégagent, des échanges intéressants, sur quel domaine?
Oui, alors on a deux temps pendant ces rencontres à Lille. On a eu mardi matin une conférence d'ouverture avec des acteurs de la santé. Alors on avait des représentants de la Commission européenne, la Direction générale de la santé, mais aussi de l'éducation. On avait des représentants des ministères français, bien sûr, de la santé et de l'enseignement supérieur. Mais on avait aussi les syndicats étudiants qui étaient présents. Je pense notamment au syndicat des étudiants en kinésithérapie, la FNEC, mais aussi du syndicat des étudiants en soins infirmiers, la FNESI, la FAGE était aussi présent. Et on a débattu toute la matinée avec les intervenants, les participants, sur qu'est-ce que peut être le futur personnel de santé dans cet espace européen. On pense surtout à la crise Covid. Suite à la crise Covid, on s'est rendu compte qu'on avait des besoins communs, qu'on avait des défis communs. Et donc voilà, ce qui ressort de ces premiers débats, eh bien, c'est de se dire aussi que de travailler ensemble, de mieux se connaître, d'être capable de dialoguer ensemble sur des sujets européens, des problématiques de santé que nous avions de manière un peu identique, permettrait de trouver des solutions peut-être plus rapidement. Et pour donner un exemple, on a parlé d'un sujet qui est commun à tous les Européens, c'est les déserts médicaux. C'est aussi le fait que certaines compétences doivent être renforcées. Il y a une transformation du métier médical, paramédical, notamment autour de nouvelles techniques, la robotique par exemple, qui est de plus en plus introduite, mais il faut former les gens à ça, il faut former les formateurs, mais il faut former qui formeront ensuite les étudiants. On a parlé aussi des problématiques d'attractivité du métier. C'est des métiers qui sont en tension. On a du mal à recruter des infirmiers à l'heure actuelle, parce que c'est des métiers qui sont difficiles. Donc comment aussi intégrer la notion du bien-être dans ces métiers, parce qu'être soignant, c'est difficile, c'est des beaux métiers, mais c'est difficile. Donc voilà, plein de défis communs dont on s'est dit en sortant de cette matinée que peut-être une réponse européenne, en tout cas en mettant plusieurs cerveaux de plusieurs cultures autour d'une table, on pourrait trouver d'autres solutions peut-être plus innovantes.
Quel est le statut de ces personnes, alors, en général jeunes, mais pas seulement jeunes, qui partent donc faire ces expériences à l'étranger? Est-ce qu'ils sont financés pour ça? Combien de temps ils peuvent rester ou ils doivent rester?
Alors ça va dépendre bien entendu du cursus dans lequel on est inscrit. Si on est dans un cursus de pharmacie, c'est pas la même chose que si on est dans un cursus pour devenir auxiliaire de périculture. Donc ça, il faut absolument se rapprocher de son service relations internationales et puis des enseignants qui s'occupent des relations internationales pour bien savoir à quel moment dans son cursus on peut partir. On sait que c'est le plus favorable de partir, puisque dans Erasmus, il y a une règle majeure, c'est quand on part, toutes les notes que l'on obtient à l'étranger sont valables dans son cursus d'origine. C'est-à-dire que je n'ai pas normalement à redoubler, je ne perds pas un semestre, je ne perds pas une année, et ça c'est très important. Et quand on part avec le programme Erasmus, eh bien, on peut demander une bourse. Donc c'est une bourse qui va aider à couvrir les frais peut-être supplémentaires qu'on aurait. Donc ça va être une bourse qui va être entre 800 euros et des fois un peu plus de 1000 euros, suivant le pays dans lequel on part, c'est pas forcément le même prix. Et puis l'année dernière, la Commission européenne a souhaité mettre un coup de pouce aussi pour aider les étudiants à partir en Erasmus, et maintenant on rembourse également une partie des frais de transport pour partir dans le pays. Et donc on reste étudiant, on reste avec son statut d'origine avant de partir, on reste inscrit dans son établissement d'origine, et tout ce qui est fait à l'étranger doit être reconnu de A à Z dans son formation d'origine.
J'imagine que certains sont peut-être, pas en difficulté, mais s'interrogent sur la manière dont ils vont pouvoir s'héberger, notamment.
Oui, c'est une préoccupation un peu partout. On sait qu'en France, quand on veut trouver un logement, quand on est étudiant, c'est compliqué. Alors, suivant les pays, ce n'est pas une préoccupation. Il y a certains pays qui ont des parcs de logements pour les étudiants très développés. Je pense au campus notamment nordique où il n'y a pas vraiment de problématique pour trouver un logement. Et puis après, il y a tout un réseau d'entraide qui est mis en place. Je pense notamment aux associations étudiantes. Il y a l'Erasmus Student Network qui est un réseau européen. Dans chaque pays, donc chaque campus, il y a une association qui peut vous aider. Un autre conseil, c'est aussi de se rapprocher des étudiants qui sont partis avant vous sur place. Ils vont peut-être pouvoir vous laisser leur appartement. Et puis, il y a aussi le programme Erasmus, c'est des mobilités sortantes, donc des jeunes Français qui partent à l'étranger, mais c'est aussi des étrangers qui viennent en France. Donc, peut-être qu'eux aussi libèrent leur hébergement et qu'il y a des fois des bourses au logement qui peuvent se mettre en place. Oui, c'est une préoccupation, mais il y a plein de solutions pour trouver un logement. Et j'ai tendance à penser que c'est plus difficile de trouver un logement en France qu'à l'étranger.
Erasmus+, le périmètre, c'est l'Europe et plus ou seulement l'Europe?
C'est l'Europe et plus. Effectivement, c'est tous les États membres de l'Union européenne, plus quelques pays qui ont décidé de financer leur participation au programme européen. Donc, chaque fois que je les cite, j'en oublie, mais vous avez la Macédoine du Nord, la Turquie.
Est-ce que, par exemple, l'Angleterre qui en est sortie fait partie du dispositif?
Alors, il fait partie du dispositif, mais pas de la même manière. Le Royaume-Uni a fait le choix de sortir d'Erasmus, il ne finance plus sa participation à Erasmus, donc vous pouvez partir avec Erasmus au Royaume-Uni, mais la bourse sera moins importante que si vous restez dans les pays de l'Union européenne. Voilà.
Bon, et puis à Londres, les loyers sont quand même assez chers.
Alors voilà, si on revient sur la problématique du logement, c'est peut-être pas à Londres qu'il faut aller.
Est-ce qu'il y a des pays, des endroits dans certains pays qui font envie plus que d'autres? Vous sentez un certain succès?
Oui, C'est les grandes capitales européennes, forcément, ont toujours un peu plus de succès. Nous, on conseille aussi aux étudiants, alors nous, agence, mais je sais que c'est aussi le message que les services relations internationales des établissements donnent aux étudiants, d'être un peu plus curieux, d'être un peu plus créatif. Il ne faut pas avoir peur d'aller notamment dans les capitales régionales ou carrément en région dans certains pays, ou même d'aller dans des pays où on se dit « oh là là, je ne parle pas la langue ». J'ai le souvenir d'une étudiante infirmière qui a été en Pologne. Elle n'était pas du tout polonaise, elle ne parlait pas polonais. Mais ce qui est intéressant aussi avec ces métiers manuels, c'est-à-dire qu'on apprend par la pratique, on apprend en faisant dans ces métiers, notamment dans les filières médicales, paramédicales. C'est du coup beaucoup plus simple de se comprendre en faisant, en montrant le geste. Donc, quand partir dans des pays où on ne parle pas forcément la langue, déjà l'anglais est grosso modo utilisé un peu partout. Et puis, en montrant le geste, on va beaucoup mieux comprendre qu'en parlant. Donc, c'est des métiers qui ont cette opportunité-là, en fait. C'est que la langue, bien entendu, c'est normal d'être inquiet. Mais le fait d'apprendre en faisant simplifie vraiment la communication et ça, c'est une chance pour les étudiants des filières médicales et paramédicales.
Donc, j'imagine que ces étudiants, une fois là-bas, ils ont, on va dire, deux préoccupations. Un, c'est de s'organiser d'un point de vue pratique, mais aussi de trouver, par rapport à l'objet de leurs études, les lieux et, si possible, y accéder dans de bonnes conditions. Est-ce que là-bas, il y a peut-être comme en France, je ne sais pas, des réunions dans les villes, des points d'accueil pour les Erasmus, des choses comme ça?
Oui, oui, c'est-à-dire qu'Erasmus, en fait, vous pouvez partir soit pour suivre des cours, donc là, vous allez être dans une université, généralement, dans une école qui propose des cours, et puis vous allez être dans la promotion avec d'autres camarades. Très souvent, il y a un service relations internationales qui est présent. Très souvent, il y a des soirées étudiantes pour les Erasmus qui sont organisées. Donc, il y a tout un système qui est là présent. C'est dans le cadre d'une relation entre deux établissements d'enseignement supérieur. Mais vous pouvez partir également en stage. Ce stage, il est à trouver avant de partir. Très souvent, à nouveau, c'est vos enseignants qui vous aident à trouver ce stage. C'est le service relations internationales qui a un catalogue de stages pour pouvoir trouver ce stage, tout simplement. Et c'est donc des établissements, voilà, dans le cadre des filières médicales, paramédicales, ça va être des hôpitaux, ça va être des centres de soins, ça peut être des maisons de retraite, qui ont l'habitude d'accueillir des étudiants internationaux. Et si je reviens à l'expérience de la jeune fille qui était partie en tant qu'infirmière en Pologne, en région, en Pologne, je ne me souviens plus du nom de la ville exactement, chaque année, ils accueillaient une jeune Française, en fait. Donc, chaque année, les infirmières sur place prenaient soin de la jeune Française, l'aidaient à trouver un hébergement, organisaient des temps de visite avec elle. Donc, que l'on parte en études dans un milieu étudiant où il y aura tout ce qu'il faut, ou parfois en stage, dans une structure un peu plus éloignée, il y a toujours un système de solidarité qui se met en place, il ne faut pas avoir peur.
Alors, au-delà des études, pour ces personnes qui vont là-bas, dans ces pays, est-ce qu'elles peuvent, en plus, imaginer des échanges entre des établissements, entre un établissement européen où elles sont allées faire leurs expériences, et un établissement équivalent en France, pas forcément tout de suite, mais à long terme?
Alors oui, effectivement, là, on a beaucoup parlé de la mobilité des apprenants, des étudiants, mais il y a une autre partie du programme Erasmus qui s'appelle la coopération. C'est des établissements, vous venez de le dire, français, européens, qui décident de travailler ensemble sur un sujet. Donc, par exemple, on a vu pendant ces deux jours, là, on a 80 participants européens à Lille pendant ces trois jours, qu'on a grosso modo enfermés dans un hôtel et dans des salles de travail pour réfléchir à des projets qui pourraient monter ensemble. Donc, par exemple, monter une formation ensemble. Donc là, on a une idée de projet dont j'ai entendu parler à midi, à la pause déjeuner, d'un serious game sur, par exemple, les méthodes en kinésithérapie. Comment on pourrait organiser un serious game en anglais entre plusieurs établissements pour que chacun puisse, avec ce serious game, apprendre à ses propres étudiants à mettre en place des méthodes en kinésithérapie. Donc ça, c'est faisable et c'est aussi financé par le programme Erasmus, des cours en commun, des techniques en commun, des plateformes en commun. Ça, c'est faisable aussi dans Erasmus et c'est les enseignants qui peuvent monter ça avec leur service administratif.
Est-ce qu'il y a encore dans le domaine de la santé en Europe des pratiques qui sont différentes, originales, peut-être traditionnelles, qui méritent d'être connues, reconnues?
Alors, je ne suis pas une spécialiste de la santé, mais j'ai tendance à penser oui. Et on a une expérience intéressante On a eu aussi, donc à notre conférence d'ouverture mardi matin, on a des ambassadeurs Erasmus+, ce sont des jeunes qui ont une expérience Erasmus, ils sont une cinquantaine et de manière bénévole, ils ont accepté toute cette année d'aller dans des événements à droite, à gauche pour expliquer ce qu'ils ont fait et essayer de convaincre de l'intérêt d'Erasmus pour les jeunes qui sont encore un peu réticents à partir ou qui ont besoin d'en discuter, ou même parfois certains établissements qui sont encore un peu réticents à laisser partir leurs jeunes. Et je le nomme, Yannick Mizy est en soins infirmiers, il est parti en Belgique l'année dernière. Il a notamment fait une mobilité dans une unité de soins palliatifs. Et effectivement, les réglementations entre la France et la Belgique sur les soins palliatifs ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, il a pu apprendre des techniques, voire des accompagnements de personnes en fin de vie différentes de la France, qu'il pourra mettre ou pas en place en France, mais en tout cas, qui va nourrir sa pratique professionnelle par la suite, mais qui aussi le nourrit de manière personnelle sur les manières dont il a vu d'accompagner ces personnes. Donc oui, bien entendu, à travers l'Europe, il y a encore des pratiques différentes, il y a des techniques différentes. Certains pays sont plus innovants sur d'autres domaines que d'autres, et c'est l'intérêt aussi de ces mobilités européennes entre personnel soignant.
Est-ce que ces expériences mises en commun, ça peut aussi convaincre les autorités d'un pays d'évoluer sur certaines questions? Je pense par exemple aux médecines douces, etc.
C'est ce qu'on souhaite. C'était ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que, en fait, on se situe aussi là, à l'heure actuelle, dans un programme européen, dans une politique européenne qui s'appelle EU for Health, l'Union européenne pour la santé, qui a été mise en place suite à la crise du Covid-19 et qui est l'idée de mettre en commun les forces de chacun des pays européens pour pouvoir régler des problématiques qu'on a en commun. Donc c'est ce que la Commission européenne propose sujets de santé. Et comme toute politique européenne, l'idée c'est de s'appuyer sur les forces des pays membres de l'Union européenne pour trouver des solutions ensemble. Et peut-être effectivement faire évoluer certains pays sur certaines pratiques et d'autres, etc.
Est-ce qu'il existe, une sorte de site de référence où on peut retrouver des études qui ont été menées, des réflexions aussi qui sont en cours pour que chacun puisse s'approprier toute cette expérience?
Sur les expériences, effectivement, Erasmus, il y a une plateforme qui s'appelle Euroguidance, qui est une plateforme, en fait, qui aide les professionnels de l'orientation, par exemple dans les lycées, les collèges, mais aussi les jeunes, à identifier les opportunités de mobilité. C'est-à-dire que pays par pays, ils vont par exemple, Euroguidance, expliquer comment se passe le système éducatif qui va permettre de pouvoir comprendre où est-ce que je peux partir, qu'est-ce qui va se passer si je pars. Ils ont des webinaires aussi de manière assez régulière, pays par pays, thématique par thématique, pour aider les jeunes à faire leur choix ou pour former les professionnels de l'orientation qui ensuite vont aider les jeunes à faire leur choix. Donc oui, cette plateforme-là, elle a des ressources diverses et variées pour pouvoir aider à faire un choix d'une mobilité européenne ou internationale.
Bon, j'imagine que sur Facebook, etc., il y a des groupes aussi où des jeunes se retrouvent pour exprimer, échanger leurs idées, leurs expériences.
Là déjà, vous pouvez effectivement contacter les ambassadeurs Erasmus+, dont je parlais. Il y a un groupe effectivement sur Facebook. Il est hyper important qu'en fait que vous puissiez échanger aussi si vous avez une envie de mobilité internationale. Échanger, regardez si autour de vous il n'y a pas des étudiants étrangers déjà qui pourront vous expliquer comment ils sont venus jusque dans votre établissement, mais aussi de vous mettre en contact avec les étudiants des promotions précédentes qui sont partis. Pour faire ce lien-là, un seul contact qui est important, c'est les personnes en charge des relations internationales dans votre établissement, que ce soit le service relations internationales ou votre enseignant chargé des relations internationales. C'est votre point d'entrée principal pour poser toutes vos questions et qui vous oriente vers les bonnes personnes.
Voilà, j'imagine ce sont ces personnes ressources qui peuvent donner l'impulsion pour donner le goût, l'envie et peut-être quelques moyens.
Oui, c'est eux qui vont vous expliquer où vous pouvez partir, quand vous pouvez partir. Il y a souvent un dossier de candidature à remplir et qui vont vous expliquer tout ça. Ils vont vous mettre souvent, ils sont aidés par les anciens étudiants qui sont partis en Erasmus, qui eux aussi sont très importants pour donner le goût de l'international, mais aussi pour vous expliquer les difficultés que vous allez avoir. C'est une expérience très particulière, on en ressort différent, se connaissant mieux, mais aussi parce qu'on a été confronté à des choses qu'on n'a jamais fait avant. Donc oui, il y a une part de risque, il y a une part parfois de peur, mais qu'il faut oser prendre parce que le résultat à la sortie est très important.
Alors Mathilde Bégrand, ces rencontres européennes Erasmus qui ont lieu à Lille du 22 au 24 octobre, se passe à Sciences Po, c'est pas forcément un hasard, mais le fait de choisir Lille, c'est par sa, on va dire, son aspect presque européen en tant que métropole.
Oui, ça faisait partie du choix. Déjà, on l'a dit tout à l'heure, l'agence Erasmus est à Bordeaux et donc il est important pour nous qu'il y ait des événements de l'agence Erasmus partout en région, qu'on ne fasse pas tout à Bordeaux ou tout à Paris. Lille aussi, de par son caractère européen, nous permettait d'avoir un accès facile à tous nos participants internationaux. C'est pas loin de la Belgique, c'est pas loin de Paris, donc arriver jusqu'à Lille, c'est assez simple par rapport à d'autres villes françaises. Et puis aussi, l'université de Lille a une faculté de santé qui est très impliquée dans le programme Erasmus+, avec qui nous avions déjà des liens auparavant. Ça s'appelle le réseau Interuni Santé. Il pilote un réseau français, voilà, de mise en relation des facultés de santé pour pouvoir échanger leurs pratiques et continuer à développer la mobilité Erasmus des jeunes Français dans ces facultés. Donc c'était aussi pour nous une source de soutien pour organiser ces rencontres. Et on les remercie.
Eh bien, merci aussi Mathilde Bégrand et bienvenue à Lille.
Merci beaucoup.